Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir de retrouver le professeur Christian Saint-Étienne. Christian Saint-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir repris sur votre temps pour venir nous parler de votre nouvel ouvrage qui vient de paraître chez Grasset, L'incohérence française. Un ouvrage de 154 pages, 10 euros. Vous êtes professeur d'université, auteur renommé, reconnu. Vous avez fait paraître en 2010-2011 deux ouvrages qui ont beaucoup retenu et qui ont été très très remarqués. Le premier, c'est L'État et votre argent, c'est la fiscalité. Le second, enfin dans l'ordre, c'est l'inverse, Guerre et paix au XXIe siècle, tous les deux chez Bourin. Vous êtes par ailleurs un chroniqueur connu et reconnu sur les principaux médias nationaux. Vous êtes eurolucide, européen convaincu, mais vous avez été néanmoins l'un des premiers à vous interroger sur l'avenir de l'euro, votre fin de l'euro, paru aussi chez Bourin et qui a été réédité en 2011, a fait en son temps beaucoup de bruit et de sceptique. On voit aujourd'hui la pertinence de votre analyse. Et c'est donc précisément dans ce nouvel ouvrage, cette lucidité que vous proposez de mettre au service de la classe dirigeante et de la société civile pour souligner les maux qui frappent la France, son incohérence politique et économique, mais aussi en proposant, c'est peut-être le plus important, des éléments de réponse pour y porter remède. Alors nous allons revenir sur ce côté diagnostic et sur les éléments de réponse que vous proposez, mais avant, peut-être pour donner le ton, car vous avez une plume qui est très agréable, je voudrais lire un passage dans votre avant-propos qui est le suivant. La situation économique est de plus en plus difficile, le peuple est maussade, la campagne présidentielle est crispée. Je vais expliquer dans ce livre l'origine de nos maux et comment y porter remède. L'analyse sera rude, les mesures proposées sont à la hauteur des enjeux. Il s'agit fondamentalement de reconstruire une société de production. Les problèmes de la France ne viennent pas de la crise financière de 2008-2009 qui n'a fait que les révéler. Et la dépense publique n'est pas la solution à nos difficultés, dont elle est plutôt la source. Je ne suis pas pour autant contre l'État, puisque j'appelle au retour d'un État stratège. Alors, je crois que là, le paysage est parfaitement campé. Donc, revenons sur ce diagnostic. Il y a incohérence française, d'ailleurs que vous comparez à une certaine cohérence allemande. C'est quoi cette incohérence française ?
Si vous voulez, nous avons pris par le traité de Maastricht, dont nous fêtons le 20e anniversaire en ce mois de février 2012, puisque le traité de Maastricht a été négocié en décembre, mais signé en février 92. Et donc, dans ce traité de Maastricht, la France s'est engagée à créer une monnaie unique. Mais, comme vous le savez, ce traité a été mal négocié, puisque dans ce traité, on a voulu créer une monnaie sans simultanément, comme aux États-Unis, créer un État fédéral, un budget fédéral et une coordination fiscale et sociale. Donc, c'est une monnaie qui était mal née. Et donc, néanmoins, à partir du moment où on crée une monnaie sans budget fédéral, c'est-à-dire sans mécanisme de redistribution, cela nous obligeait à être aussi bons que le meilleur de la classe. Comme le meilleur de la classe s'est révélé être l'Allemagne, alors ce n'était pas donné en 92, mais il se trouve qu'en 97-98, l'Allemagne, qui faisait face à des problèmes de compétitivité majeurs, a modifié totalement son modèle économique et a adopté un modèle industriel exportateur. Et la France aurait dû se caler sur ce modèle à partir du moment où nous allions entrer dans l'euro, hein, puisqu'on est en 97-98 et l'entrée effective dans l'euro, c'est au 1er janvier 99. Et non, au lieu de faire ça, alors vous vous souvenez, en 95-96, c'était le temps de Jérémy Rifkin qui avait commis un ouvrage qui s'appelait « La fin du travail ». Ça a été la source philosophique des 35 heures. Évidemment, les Américains sont bien gardés d'appliquer ce projet. Donc, la France a été le seul pays au monde à appliquer les théories de Rifkin. Et donc, nous sommes entrés à travers ce modèle dans un modèle de consommation tiré par une dépense publique à crédit. Et ceci a conduit à une divergence très violente des performances de la France et de l'Allemagne, dont on voit les résultats aujourd'hui. L'Allemagne avait des déficits extérieurs en 95-96 et la France des excédents. Aujourd'hui, c'est malheureusement l'inverse, avec un écart de l'ordre de 200 milliards d'euros, puisque l'Allemagne est excédentaire de plus
130,
de 120, 130
ouais,
milliards ouais, 130 et nous déficitaires 70. Et 200 milliards d'euros, c'est 10 points de PIB, donc c'est absolument colossal. Et la France est aujourd'hui en grande difficulté, notre économie n'est plus compétitive. Et c'est pour cela qu'il faut reconstruire un appareil de production compétitif.
Alors là, vous avez des mots forts, hein, puisque vous parlez du crime de Maastricht, qui est à la fois donc d'introduire une monnaie unique et le primat d'une concurrence fiscale et sociale qui a fait donc de la France la grande perdante de ce traité.
Voilà, parce que dans ce traité, comme donc on avait créé un euro sans coordination fiscale et sociale, et comme on avait, à la demande de l'Angleterre, sanctifié le fait que toute décision en matière fiscale et sociale serait prise à l'unanimité, on a donc choisi de construire l'euro sur la base d'un principe de concurrence fiscale et sociale qui est la négation d'une zone monétaire, puisqu'une zone monétaire, qui est le partage d'une monnaie, doit conduire à une concurrence sur les marchés de biens et services. La concurrence sur les marchés de biens et services est souhaitable et nécessaire, c'est la condition de l'efficacité. Mais la concurrence par les normes fiscales et sociales est une prédation. L'exemple frappant, c'est le fait que l'Allemagne et la France ont apporté en novembre 2010 80 milliards d'euros à l'Irlande en contrepartie du fait que cet État nous faisait une compétition fiscale avec un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5. Donc, c'est l'absurdité totale.
Tout à fait. Vous insistez sur un point qui, parfois, peut échapper. Vous vous rappelez que la France est à la veille, d'une crise de finances publiques d'ampleur historique comparable à celle de la fin de l'Ancien Régime. Si l'on ramène le déficit public non pas au PIB, mais à la dépense de l'État, qui concentre l'essentiel du déficit public, le déficit public en 2010 atteignait le tiers de la dépense de l'État, soit un niveau comparable au déficit de l'État à la fin de l'Ancien Régime.
Absolument.
Donc ça situe le niveau d'alerte sur les finances publiques.
Et d'ailleurs, vous ne m'en voudrez pas de rappeler qu'à la fin de l'Ancien Régime, un économiste qui était à l'époque intendant du roi, avait été chargé par le roi comme ministre des Finances de porter remède à cette crise de finances publiques. Il avait fait une analyse très judicieuse. Il avait dit les grandes sources de richesse du pays que sont l'aristocratie et le clergé ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et donc, il voulait créer une dîme qui touche la totalité
de la population.
Puisqu'elle touchait les pauvres, mais pas les riches, cette dîme. Ouais. Et donc, le roi lui a donné son accord, il l'a mise en œuvre, mais au bout de 6 mois, le clergé et l'aristocratie ont obtenu sa tête. Mais quelques années après, c'était l'inverse, et c'était les têtes de l'aristocratie et du clergé qui tombaient sur
donc,
la place de grève.
Une grande leçon de l'histoire. Alors, premier point, des finances publiques dans une situation absolument dramatique, et donc il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce déficit, de cette situation. Et donc, un autre côté, désindustrialisation, masqué par la montée de la dépense justement à crédit.
Oui, parce que la dépense publique à crédit a alimenté la consommation, ce qui a donné l'illusion d'une certaine prospérité, alors que tout ça était à crédit et que nous nous retrouvons avec un endettement insupportable.
Parfait pour le diagnostic. Je crois que vous ne faites que rappeler des évidences, mais qui ne sont pas toujours perçues comme telles. Alors, au niveau maintenant des éléments de réponse, alors comment prendre le problème, par où et comment?
Donc, il faut reconstruire un système productif efficace. Ce que l'on observe, c'est qu'au deux bouts de la chaîne de création des entreprises, de développement des entreprises, nous avons 3 millions d'entreprises en France, mais nous n'en avons que 200 000 au-dessus de 10 salariés. Donc, quand on regarde les entreprises de moins de 10 salariés, il y a une natalité des entreprises qui est très forte. Rapportée aux millions d'habitants, la création d'entreprises en France est aujourd'hui comparable à celle de l'Allemagne ou des États-Unis. Mais en revanche, au-delà de 10 salariés, nous avons beaucoup moins de croissance de nos entreprises. Elles passent à peu près le seuil de 30 salariés pour se développer. Mais en revanche, le seuil de 70 ne leur permet pas de croître parce qu'il y a beaucoup de points de barrage à ce niveau-là. Et donc, nous avons deux fois moins de grosses PME que les Allemands. Et même dans la tranche de l'ordre de 500 à 5000 entreprises, nous en avons 4 fois moins que l'Allemagne. Or, ce que l'on observe, c'est que le dynamisme à l'export de l'Allemagne est largement assuré par ces grosses PME allemandes, puisqu'il se trouve qu'en France, sur les 3 millions d'entreprises, nous avons quelques très, très grands et très beaux groupes mondiaux. Mais les 5000 premières entreprises françaises font 80% des exportations. Et donc, nous avons trop peu d'entreprises exportatrices. Nous en avons 90 000, alors que les Italiens en ont le double et les Allemands le triple. Donc, il faut que nous reconstruisions. Alors, quand on regarde pourquoi nos entreprises exportent si peu, surtout quand on compare la rentabilité des entreprises françaises à la rentabilité des entreprises allemandes et italiennes, les grosses PME d'Italie du Nord, on voit que les PME françaises Quand on sort du système productif français, le CAC 40 qui est très internationalisé, qui ne fait que 40 entreprises, quand on regarde les 3 millions d'autres entreprises en France, on s'aperçoit que la rentabilité moyenne de ces entreprises est moitié moindre qu'en Allemagne et un tiers de moins qu'en Italie du Nord. D'ailleurs, l'Italie du Nord, il ne faut pas se moquer de l'Italie, puisque l'Italie a une balance des échanges industriels équilibrée, alors que pour les seuls échanges industriels, la France a un déficit de 40 milliards d'euros. Donc, c'est un impératif absolu de reconstruire notre tissu de grosses PME.
Qui est très faible, avec des entreprises petites, qui ont peu de fonds propres, qui d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse avec les reproches qui sont faits souvent aux banquiers qui ne financent pas, soi-disant, suffisamment à l'économie. Il faut voir aussi quelle est la qualité des emprunteurs.
Et absolument.
Le banquier reçoit et utilise pour son propre compte l'argent reçu du public. Il a des comptes à rendre aussi à ses déposants. Et donc, c'est la qualité de l'emprunt.
Et donc, la reconstitution des fonds propres des PME est une nécessité pour leur absolument permettre ensuite d'obtenir des crédits pour investir.
Tout à fait. Vous rappelez qu'il y a plusieurs modèles de développement possibles. L'un sur lequel vous attirez l'attention, c'est le modèle de production dit métropolisé.
Oui.
Alors ça, je crois que c'est une idée qu'on voit assez peu. Vous pouvez en dire quelques mots.
Bien sûr. Ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, mais ça, le développement de ce modèle s'accentue, c'est que la croissance mondiale est tirée par ce qu'on appelle l'économie de l'innovation, mais c'est une économie de l'innovation qui justement s'appuie sur un développement rapide des PME. Mais d'autre part, on constate une métropolisation de la croissance au plan mondial. Ce n'est pas la Chine qui se développe, c'est Shanghai ou Canton. En Allemagne, ce sont les grandes villes, Rhénan et dans le reste du pays, et en Bavière. Et donc, ce que l'on doit se dire, c'est que si nous voulons réussir le redéveloppement de la France, et notamment le redéveloppement de notre tissu de PME, ça ne peut se faire que dans le creuset des grandes villes. De ce point de vue-là, il faut sortir d'un certain nombre de préjugés qui sont totalement faux. Le Grand Paris de 10 millions d'habitants, on pense toujours, on l'a toujours présenté comme une ville prédatrice, c'est totalement faux. Le Grand Paris, c'est 29% du PIB de la France, presque un tiers, mais ce n'est que 22% de ses revenus. En fait, le Grand Paris, c'est une colossale machine à produire des richesses, à les redistribuer. C'est la même chose pour le Grand Lyon, Grenoble ou le Grand Marseille. Et donc, ce que nous devons faire, c'est au contraire accélérer le développement de ces grandes métropoles. Mais il faut également s'appuyer sur le Grand Toulouse, le Grand Nantes. Il faut travailler sur le sillon lorrain et puis sur le Grand Strasbourg. Donc, il faut s'appuyer sur les pôles métropolitains. Et ce que je propose, c'est que, évidemment, comme le territoire français n'est pas constitué que de grandes métropoles, de s'appuyer sur un deuxième réseau de grandes villes de 100 à 150 000 habitants, en gros toutes les grandes préfectures françaises. Et donc, sur ces deux réseaux de villes qui peuvent irriguer l'ensemble du territoire, on peut mailler ces territoires métropolitains avec des réseaux de PME en développant les capacités d'investissement en fonds propres au niveau régional. Tout cela en liaison avec le fonds stratégique d'investissement. On peut créer et développer massivement des fonds régionaux qui travaillent en liaison avec ce fonds stratégique d'investissement dans le cadre d'un projet qui est structuré par un haut commissariat à la stratégie. Et donc, avec 200 ou 300 personnes, il ne s'agit pas de revenir au plan, il s'agit de concevoir un développement équilibré du territoire. Par exemple, la France a des forces limitées aujourd'hui. On sait que les nanotechnologies se développent très fortement sur Grenoble. La France n'a pas la capacité de développer 5 pôles de nanotechnologie en France. Donc, il faut concentrer les moyens, concentrer nos efforts et ensuite irradier l'ensemble des territoires à partir de ces métropoles puissantes. Et donc, ça, c'est un nouveau projet de reformation de notre territoire sur le plan institutionnel qui va avec le développement de cette société de production pour donner à notre pays tous les emplois dont nous avons besoin.
Et alors, le point sur lequel vous insistez, et c'est peut-être le dernier qu'on va rappeler, c'est sur l'importance que les salariés, que les travailleurs puissent prendre une part peut-être un peu plus nette dans ce processus et avec un engagement et une ouverture plus forte que ce que l'on a pu connaître par le passé, qu'ils soient pleinement associés, dites-vous, au bénéfice de la reconstruction de notre appareil de production. Ça vous paraît être un enjeu
oui,
majeur?
Oui, absolument, parce que justement, je pense qu'il y a deux piliers sur lesquels on doit s'appuyer pour bâtir cette société de production. Justement, la production par le développement de ces grosses PME et d'autre part sur la justice sociale. Et ça passe par la capacité des PME d'associer les salariés à leur développement, y compris par l'actionnariat salarial qui peut passer par la distribution d'actions. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction parce qu'on ne peut pas avoir une stratégie qui privilégie le développement d'une société de production et donc qui favorise par nature, puisque les PME françaises comme ailleurs sont des entreprises patrimoniales, on ne peut pas faciliter et accélérer le développement des entreprises patrimoniales sans y associer l'ensemble de la force de travail. Sinon, ça créerait de nouvelles sources d'inéquité et de tensions sur le territoire national et dans la sphère politique.
Donc, un diagnostic sévère, mais pour autant pas complètement désespéré.
Je pense que la France a tout à fait le potentiel pour rebondir. Un seul mot, un seul chiffre, nous avons une dépense publique qui fait 56 points de PIB, qui, pour les auditeurs, c'est 1100 milliards d'euros. C'est colossal, donc plus de la moitié du PIB. Et donc, l'ampleur de ce qu'il faut faire, c'est redistribuer une centaine de milliards d'euros, contrôler la dépense publique pour qu'on puisse à la fois réduire la dépense publique de 50 milliards d'euros et envoyer 50 milliards d'euros dans le financement du développement productif pour que la France redevienne une société de production. De ce point de vue-là, le déficit le plus grave, c'est moins le déficit public que le déficit extérieur. Quand on a un déficit extérieur de 70 milliards d'euros, ça veut dire qu'on consomme 70 milliards d'euros de plus que ce qu'on produit. Et c'est intenable aujourd'hui, surtout dans la continuation de la crise de la zone euro. Et donc, il est impératif de reconstruire une société de production parce que c'est le moyen d'équilibrer nos comptes extérieurs.
Compétitive. Et puis aussi pour l'emploi.
Absolument.
Et vous terminez, on terminera là-dessus, sur un Européen convaincu. Votre souhait, une France forte n'est plus que jamais nécessaire pour reconstruire une Europe libre, capable de peser sur les équilibres du monde en faveur de la paix et de la prospérité collective. Donc, vous êtes toujours dans des convictions très fortes et l'espoir que rien n'est perdu pour la France.
Absolument, et je suis confiant, mais à condition que les Français ouvrent les yeux et qu'ils fassent le bon choix à la présidentielle.
Bien, en tout cas, vous êtes en train de les aider. Merci à vous, Christian Saint-Étienne.
Merci.
À très bientôt. Merci.